Célia Zaffaroni, psychologue clinicienne à l'UMJ de Nancy. Moi, je suis à l'UMJ de Nancy depuis un peu plus d'une dizaine d'années, principalement sur une activité de soins, donc très clairement dans le cadre de la réforme de la médecine légale. J'ai quand même été amenée à faire de l'évaluation dans un cadre très très particulier qui était celui d'une expérimentation nationale sur l'application de la directive européenne de l'évaluation des besoins en protection des victimes. Donc c'est une activité qu'on a menée pendant presque 2 ans d'évaluation, mais pas dans un contexte médico-légal. Et je suis par ailleurs expert principalement à la demande des juges d'instruction. Mais je pratique l'évaluation dans un cadre thérapeutique au quotidien à l'UMJ. Alors, je vais revenir sur des choses qui ont déjà été dites. Je ne vais pas forcément les approfondir énormément, mais je vais peut-être rebondir sur quelques éléments. On a vu que cette évaluation du retentissement, c'est la mission quotidienne du médecin légiste, qui est souvent basée, entre guillemets, uniquement, ce n'est pas réducteur, sur l'observation et l'interrogatoire clinique. Et c'est aussi la mission spécifique de certains psychologues et psychiatres exerçant en UMJ, seul ou en binôme, en co-évaluation. Peu de recommandations en dehors de celles de l'HAS, pas de consensus, pas de barème, tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Et puis également, pas de matérialité au retentissement psychologique pour des professionnels qui ont l'habitude de fonctionner sur quelque chose de visible, de lésionnel, d'organique, d'objectivable. Et qui dit retentissement psychologique dit domaine émotionnel, hein, le champ des émotions. Donc, qui dit émotion dit subjectivité totale, subjectivité évidemment du côté des victimes, mais pas seulement. À partir du moment où on est dans le domaine des émotions, il y a quelque chose de contaminant. Et la clinique de la violence aussi, c'est une clinique toute particulière qui nous expose aussi à parfois tomber dans une certaine confusion. Peut-être qu'on l'a vu un petit peu ce matin, quand on ne sait pas bien de quelle place on parle. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent, et pas seulement sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui vient infiltrer aussi toutes les réflexions qu'on a sur l'évaluation. Et puis, la question de l'évaluation du retentissement, c'est aussi la question du pouvoir et aussi des limites de la parole, du déclaratif. Alors que cette parole, elle est elle-même considérablement influencée par le retentissement psychologique lui-même et réciproquement. Donc comment on se débrouille avec ça? Moi, je suis convaincue que le cadre de l'évaluation, c'est incontournable, c'est essentiel. Finalement, on a beaucoup évoqué tout ça ce matin. Qu'est-ce qu'on évalue? C'est ce que je vais essayer de développer. Dans quel objectif? Auprès de quel type de victime? À quel moment? La temporalité aussi, on l'a beaucoup évoqué. Avec quels moyens? De quels outils on dispose? Et qui évalue? Alors, on parle beaucoup du traumatisme, et c'est vrai que c'est fréquemment médiatisé. On a tous des représentations de ce que c'est le stress post-traumatique aujourd'hui dans l'opinion publique. Mais en fait, on n'évalue pas que du psychotraumatisme dans le retentissement psychologique parce que les victimes ne souffrent pas que de troubles spécifiques. Hein. On peut réagir à des violences sur un mode non spécifique. On évalue aussi beaucoup d'états dépressifs, d'états anxieux, troubles du caractère, du comportement, des situations de crise suicidaire, de dépendance, etc., etc. Très fréquemment, le traumatisme ne voyage pas seul. On ne peut pas se contenter de poser la question des cauchemars et de se cantonner au syndrome de répétition. C'est bien trop réducteur par rapport au spectre symptomatique dont souffrent les personnes victimes de violences. On a quand même des troubles spécifiques, et en particulier en aigu, ça a été évoqué ce matin, et puis aussi Thomas Perrault et Raphaël Valerte, la question des troubles dissociatifs, des manifestations péritraumatiques, dont on sait qu'elles ont quand même une valeur à minima pronostique. Hein, ce sont des réactions qui sont prédictives d'un état de stress post-traumatique. Elles sont sensibles, ça veut dire que la grande majorité des personnes qui les présentent développent un stress post-traumatique ultérieure. En revanche, elles sont peu spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut développer un stress post-traumatique sans avoir développé ses réactions dans l'immédiat. D'où l'intérêt et la limite de l'évaluation précoce. Et donc, quel type de victime on va évaluer? Alors, souvent, on distingue 2 catégories de personnes victimes. Les personnes victimes de violences récentes et uniques, pour lesquelles on va repérer des troubles spécifiques et non spécifiques. Ce qui n'exclut pas d'emblée le repérage, évidemment, d'un état antérieur et quand même déjà appréhender dans quelle mesure il a pu être éventuellement modifié par les faits plus récents, étant antérieurs, qu'il faut quand même aussi différencier d'une simple vulnérabilité. Je ne sais pas si l'exercice quotidien du médecin légiste a la possibilité d'aller jusqu'à ce niveau de discrimination. Et puis, il y a les violences répétées chroniques, dont on a beaucoup parlé, puis aussi les violences anciennes, hein, qui ne se répètent pas aujourd'hui. C'est encore une autre catégorie, et qui définit un autre cadre d'évaluation également. Et dans ces types de violences, comme dans les violences chroniques, il y a principalement des troubles non spécifiques, qui sont souvent au premier plan, beaucoup moins de syndromes de répétition, ce qui pose la difficulté de leur diagnostic, qui est quand même plus pointu. Donc ça pose aussi la question de cette évaluation généraliste. On parle de trauma complexe, on a parfois une symptomatologie associée à des troubles de la personnalité, c'est très très largement documenté aujourd'hui. Donc on voit bien comment l'évaluation va dépendre du type de violence, du délai écoulé évidemment depuis les faits, et aussi du délai écoulé parfois par rapport au dévoilement des violences et au dépôt de plainte, qui lui aussi est souvent générateur d'un retentissement accru. La temporalité, c'est aussi celle du cheminement de la personne victime, cheminement subjectif, cheminement dans la procédure, cheminement psychologique, l'après-coup des symptômes, loin d'être prévisible, y compris pour des spécialistes. La temporalité, c'est aussi celle du praticien, quel qu'il soit, le temps qu'il peut ou qu'il veut consacrer à l'évaluation. On ne peut pas du tout mener la même évaluation en 10 minutes, un quart d'heure de consultation qu'en 3 quarts d'heure ou une heure. C'est... Donc forcément, ça va énormément déterminer le contenu et le rapport. Et pour le coup, autant je partage beaucoup de positions avec le docteur Laurent Martry, autant s'il y a un point sur lequel j'exprime clairement mon désaccord, c'est la question de la complexité de l'évaluation. C'est pas facile. C'est pas facile de... Voilà, c'est une évaluation extrêmement complexe, l'évaluation du retentissement psychologique. Elle est très exigeante, elle est longue, en particulier pour les violences chroniques, mais pas exclusivement. Et doit-elle, à partir de quand doit-on la spécialiser? À partir de quand faut-il y mettre de la pluridisciplinarité, de la coévaluation? C'est des questions qui se posent. Quels moyens on a d'évaluation? On l'a évoqué, l'interrogatoire clinique, l'observation. Et on a aussi un certain nombre d'outils qui ont des qualités psychométriques différentes, mais aujourd'hui assez reconnues, assez éprouvées par la littérature scientifique. Alors certes, ce n'est pas une littérature francophone, mais c'est très très documenté. On a un certain nombre d'échelles, d'outils, de questionnaires qui sont ou remplis, qui peuvent être remplis par la victime elle-même, ou des échelles qui sont hétéro-administrées, c'est-à-dire que c'est un enquêteur, un évaluateur qui va poser des questions et dans le cadre d'un entretien semi-dirigé avec la personne victime. Donc on va vraiment d'outils qui sont très rapides, hein, quelques 5 minutes de passation, à des outils beaucoup plus longs, avec une heure et demie d'entretien semi-dirigé, c'est évidemment pas du tout la même chose. On a des entretiens spécifiques, vraiment centrés sur les syndromes psychotraumatiques purs, et des instruments beaucoup plus généralistes qui sont indispensables dès l'instant qu'on veut élargir le spectre de l'évaluation sur le plan symptomatique. On a des instruments aussi qu'on peut classifier de façon catégorielle ou dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on a des instruments qui permettent de poser des diagnostics, des instruments validés, et des instruments dimensionnels qui permettent de faire des mesures d'intensité des troubles. Et probablement que ces instruments ont un intérêt pour l'ITT quand on cherche à caractériser l'intensité d'une gêne fonctionnelle. Donc on a différents types d'outils qui du coup génèrent beaucoup de tentations vis-à-vis d'une évaluation standardisée, bien qu'elle soit à l'heure actuelle assez peu utilisée. Ça c'est un petit schéma, je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour bien montrer qu'en fonction du moment où on rencontre les personnes victimes, en fonction du type de victime, suivant qu'on les rencontre en flagrance, on a montré que c'était très très difficile, la flagrance et à J+2, J+3, c'est déjà autre chose. J+2, J+3, on peut repérer de la dissociation péritraumatique, de la détresse péritraumatique, et on peut commencer à repérer un état de stress aigu qui va évoluer de 8 jours jusqu'à un mois. Ensuite, on est sur l'état de stress post-traumatique et on a des outils pour chacune de ces périodes, des outils différents. Donc je passe rapidement, parce que ce n'est pas le but de tout vous documenter d'un point de vue technique, mais c'est important de savoir que ça existe. Alors maintenant, qui évalue quoi? Quelques repères humbles. Le médecin légiste doit repérer la présence d'un retentissement, ça a été clairement précisé. Il doit apprécier son intensité. et il doit rédiger une première description clinique. Les échelles auto-administrées, les petits questionnaires rapides de 5 minutes, qu'on serait même parfois tenté de proposer dans une salle d'attente, à des victimes toutes seules face à leur souffrance, je ne sais pas, elles sont attractives. Hein. Mais l'évaluation standardisée n'est pas une garantie d'efficacité, malgré les qualités psychométriques des outils. Sa validité reste très limitée s'il n'y a pas de recherche de convergence entre des outils, de convergence entre des outils et un entretien. Sans recherche de cohérence et sans l'approche qualitative qui est la seule qui peut prendre en compte la singularité du retentissement psychologique de chaque personne. Du côté du médecin psychiatre et du psychologue clinicien en UMJ, il y a vraiment un socle déontologique commun à nos professions, mais on a aussi des formations et des missions tout à fait différentes. Alors pour bon nombre d'entre vous, ce que je vais dire, c'est connu, mais peut-être pas pour tous. Hein. Le psychiatre est médecin, il a une formation universitaire médicale. Le psychologue a une formation universitaire en sciences humaines. C'est pas le même bagage, c'est pas le même formatage. Hein. Le psychiatre peut avoir une formation en dommages corporels, en médecine légale, bien entendu, et le psychologue peut avoir une formation en psychotrauma qui maintenant fait partie de toutes les formations initiales. Hein. Mais souvent, l'intérêt d'avoir un psychologue clinicien en UMJ, c'est aussi sa formation en psychopathologie, moi qui me semble indispensable en UMJ. 2 minutes. Psychiatre et psychologue décrivent finement le retentissement psychologique dans les deux cas. Le psychologue a une approche centrée sur la dynamique psychique propre au sujet. Il va l'inscrire dans son histoire, dans son environnement, dans une temporalité. Le psychiatre, lui, réalise un examen psychiatrique classique, rédige le certificat médical initial descriptif. L'ITT, c'est une prérogative médicale et le psychiatre peut être amené à la déterminer. De même que la question de l'imputabilité apparaît comme une prérogative du psychiatre dans un cadre d'une mission d'expertise et non d'examen sur réquisition, me semble-t-il, le médecin légiste se limiterait-il à la compatibilité en matière de retentissement psychologique ? Moi, c'est une question que je me pose, qui renvoie au degré de certitude dans le lien de causalité. On voit bien que psychiatre et psychologue ne sont pas interchangeables. Il s'agit de solliciter le professionnel adéquat en fonction de l'éclairage attendu dans un cadre adéquat, temporalité, cadre d'évaluation, mission, terminologie, etc., etc. À nous de donner au magistrat le mode d'emploi. Le cadre d'évaluation ne s'improvise pas, il est construit, vous voyez, sur des fondements théoriques, méthodologiques, scientifiques. Il se décline au cas par cas. La pratique est complexe, exigeante, et ses conclusions réservent toujours prudence, réserve, humilité, nuance. L'évaluation précoce, spécialisée ou non, elle est extrêmement précieuse, mais elle ne peut pas du tout rendre compte de la variété et de la complexité des syndromes psychotraumatiques et de leur évolution dans le temps, qui est soumise à de nombreux facteurs. Le mésusage de ce cadre d'évaluation met en cause sa pertinence et le vide de sens. Ce mésusage limite l'intérêt et la portée de l'évaluation et expose les victimes à un risque second. L'absence d'une harmonisation minimum, ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument tout harmoniser, bien entendu, pose un problème d'égalité entre les victimes, ça a été dit à plusieurs reprises et ça me semble important de le redire. Dans une double mission de service public, à la fois justice et santé, on est à l'hôpital, à l'UMJ, on a les mêmes missions de service public. Je voudrais terminer sur quelques considérations générales, des questions que je me pose, quelques écueils. Rappeler que l'absence de symptômes objectivables ne signifie pas absence de retentissement psychologique et ne prédit pas forcément une bonne évolution. Parfois, cette absence de symptômes reflète un signe de gravité, c'est le cas dans les états dissociatifs, dans les syndromes d'adaptation aux violences, chez les victimes de violences conjugales en particulier. L'absence de symptômes également ne doit jamais être interprétée comme une remise en cause de la crédibilité et de la matérialité des faits. C'est pourtant des choses qu'on entend souvent. Ah bah, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de symptômes, c'est qu'il ne s'est rien passé. Parfois, c'est un glissement qu'on observe. Et puis j'ai une autre question, c'était pour M. Lacombe, mais je crois qu'il est parti. Si une personne harcelée est résiliente, peut-elle être reconnue en qualité de victime ? Le harcèlement, c'est la seule infraction où l'altération de l'état général, c'est le socle constitutif de l'infraction. Donc si on est harcelé, mais qu'on s'en sort bien psychologiquement, c'est pas puni, c'est pas poursuivi, c'est pas une infraction, je sais pas. C'est une question. Je vais terminer. A contrario, alors que la reconnaissance du traumatisme psychique est essentielle, sa présence n'en est pas non plus pour autant dans l'absolu un élément de preuve. Et c'est la subjectivité et la relativité du trauma. On peut aussi être traumatisé par une transgression, une infraction qui n'existe pas. On peut se sentir violé alors qu'on ne l'a pas été. C'est un autre problème. Il y a des limites à tenter de concilier ou de faire coïncider réalité psychique et réalité judiciaire. Et le retentissement psychologique gagne autant à être reconnu qu'à être relativisé. Et je conclus sur la question évaluation versus soin qui me tient beaucoup à cœur. Je me pose la question de l'intérêt et de la valeur aussi des attestations que les thérapeutes que nous sommes dans le soin rédigeons. Au bénéfice des victimes en UMJ aux différentes étapes de la procédure. Quid, quelle est leur valeur, comment c'est utilisé? Je me tourne vers les magistrats du siège en particulier. Les besoins en évaluation sont grands, mais doivent-ils avoir la priorité sur les besoins thérapeutiques? C'est une question politique sur laquelle le législateur a tranché en 2010 dans la réforme de la médecine légale. C'était une étape, peut-être qu'il faut faire évoluer les choses. Et c'est aussi une question symbolique et éthique. Quel sens y a-t-il à évaluer des besoins avec les moyens censés les prendre en charge et en privant les victimes de ces moyens? Je vous laisse ces réflexions. Merci de votre attention.